Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, ces entreprises qui profitent de la crise.
Pour licencier hors de tout cadre légal. Témoignage édifiant dans un instant. La mesure pourrait concerner 4 millions de salariés. Une proposition de loi veut étendre la distribution des bénéfices aux TPE et PME. Et puis nous serons à Perpignan à 10 jours du second tour des municipales où le Front Républicain contre le Rassemblement National a du plomb dans l'aile.
Le chiffre est vertigineux. Près d'un million d'emplois pourraient être détruits en France d'ici la fin de l'année.
900 000 d'après les prévisions de l'UNEDIC, mais pour se séparer d'un salarié, vous le savez, il y a des règles dont s'affranchissent en ce moment certaines entreprises. Illustration avec ce témoignage recueilli par Christophe Ponzio.
Après deux mois de chômage partiel, Riyad est convoqué à un entretien de routine par son chef d'agence.
Tout allait bien.
Mais en fin de discussion, le couperet tombe pour cet ingénieur de 30 ans.
Voilà, on souhaite te licencier pour faute grave contre de l'argent, même si t'as pas commis de faute. Ce qui est évoqué, c'est le sauvetage de la société. C'est un choc.
Cinq jours plus tard, Riyad refuse la combine, les entretiens dérapent.
C'est une profusion de menaces en fait. Des pressions, du chantage. J'ai été harcelé pour accepter sur place cette proposition. On a l'impression d'être en face d'une mafia où on peut rien faire, on est impuissant. C'est très violent. Je suis victime de la crise.
Une victime sans plan social en bonne et due forme, loin d'être isolé, explique le délégué syndical FO de cette entreprise en pleine croissance.
Je suis scandalisé. Il y a plus de 200 licenciements qui ont eu lieu au cours des deux derniers mois, passés sous le radar de l'administration. C'est un plan social contourné à moindre coût.
Et la crise accélère l'usage de ces pratiques, selon Laurent Parra, avocat en droit du travail.
Il y a un effet d'aubaine. Là, il y a une justification du fait de la crise. C'est une fraude très difficile à démontrer. Le risque, c'est que des entreprises se séparent de salariés pour accroître leur rentabilité et non pas pour sauvegarder leur compétitivité.
Quant à Riyad, il va, dit-il, saisir le conseil des prud'hommes.
Christophe Ponzio, faut-il étendre la redistribution des bénéfices, la participation aux salariés des petites et moyennes entreprises? Bonjour Martial Youn.
Bonjour.
C'est une proposition de la majorité et elle pourrait concerner 4 millions de personnes aujourd'hui.
Oui, alors c'est vrai qu'actuellement la participation c'est une usine à gaz pour beaucoup de petits patrons qui n'ont pas toujours la direction financière pour la calculer. Plus de 60% des employés des multinationales y ont droit, mais moins de 4% dans les TPE-PME. Alors le nouveau système serait automatique, avec un pourcentage en fonction du secteur d'activité et du nombre de salariés. Donc par exemple, 2% de la part des bénéfices redistribués dans les entreprises de textile de moins de 10 salariés. Le taux serait différent dans le bâtiment, le commerce ou les concessions automobiles. Ça permettrait d'offrir donc un 13e mois aux employés des petites entreprises, puisque le montant moyen de la participation est de 1 400 €. Le souci, c'est que dans les prochains mois, les entreprises auront sans doute beaucoup de mal à faire des bénéfices.
Merci beaucoup Martial Youn.
Des centaines de milliards pour relancer l'économie européenne, le plus dur commence aujourd'hui.
Dans deux heures exactement, avec ce sommet européen, toujours en visioconférence, qui doit trancher sur le montant que les 27 devront emprunter en commun. 750 milliards, plaide Paris et Berlin. Mais certains pays font toujours de la résistance, Bénédicte Tassard.
C'est un peu facile de nous traiter de radins, tempère une personnalité diplomatique suédoise. La Suède est un pays solidaire. Nous donnons 1% de notre budget à l'aide au développement. Nous avons largement ouvert nos frontières aux migrants en 2015, pendant la crise syrienne. La France n'en a pas fait autant, souligne-t-elle. Ces quatre pays frugaux, que sont la Suède, le Danemark, les Pays-Bas et l'Autriche, se prononcent donc maintenant pour ce plan de relance massif. Mais pour apposer leur signature au bas de l'accord, ils réclament que les fonds soient distribués principalement par des prêts et pas par des dons, et qu'il y ait des contrôles. Un compromis est donc envisageable, pas aujourd'hui. Nous n'assisterons qu'à un premier tour préliminaire en visioconférence. Il faudra un, voire deux sommets européens physiques à Bruxelles pour un accord peut-être avant fin juillet.
Merci Bénédicte Tassard. En bref, à l'étranger, l'Australie, victime d'une tentaculaire cyberattaque à la Chine dans son viseur. Les systèmes informatiques du gouvernement, de plusieurs administrations et d'entreprises ont été touchés. Le Premier ministre accuse un acteur étatique sophistiqué, ce sont ses mots. Mais on sait que l'Australie avait suscité la colère de Pékin en réclamant une enquête sur l'origine de la pandémie de coronavirus.
La politique et même les municipales, le Front Républicain se fissure à Perpignan. Louis Alliot du Rassemblement National s'en délecte.
C'est plutôt un flop républicain qui s'est formé. Il y a des gens qui se disent, dès qu'ils entendent le Front Républicain, on se fout de nous.
Reportage à suivre dans un instant sur RTL.
RTL Matin. RTL, municipale 2020.
8h06, la suite du journal de Jérôme Florin. Et à J-10 du second tour, nous partons à Perpignan.
Cette ville de 120 000 habitants, c'est l'objectif numéro un du parti de Marine Le Pen. Et les choses semblent bien parties, en tout cas sur le papier, puisque le candidat Rassemblement National, Louis Alliot, est arrivé largement en tête au premier tour, loin devant le maire sortant, les Républicains, Jean-Marc Pujol, qui a réalisé un historiquement bas, 18% contre 36% pour son rival. En Marche et les écologistes ont beau appeler au Front Républicain, ça n'a pas l'air de porter, Marie Mollet.
Oui, dans les rues de Perpignan, le nom de Louis Alliot ne fait plus forcément bondir.
On ne sait pas s'il sera mieux que les autres. C'est le dernier recours, on va dire.
Celui du maire sortant hérisse parfois davantage.
Monsieur Pujol a fait 100 ans. Je vois le résultat. Je ne suis pas satisfait. Donc, je vote pour autre chose.
Et ça n'a pas échappé aux candidats malheureux du premier tour. Certains refusent de donner des consignes de vote claires, comme Olivier Amiel, d'Hiver Droite.
Je n'appelle pas à voter pour le Front Républicain. Cette pratique est devenue un extincteur du débat public. On ne peut pas, au nom du Front Républicain, nous imposer le statu quo, quoi qu'il arrive.
Plus spectaculaire encore, trois colistiers En Marche appellent à voter Louis Alliot, du nectar pour le député RN qui se délecte.
C'est plutôt un flop républicain qui s'est formé. Dès que des candidats se sont retirés, des personnes de leur propre liste sont appelées à voter pour moi. Il y a des gens qui se disent, dès qu'ils entendent le Front Républicain, on se fout de nous.
Le maire sortant, Jean-Marc Pujol, lui, se rassure par de savants calculs.
S'il additionne ces trois scores qui viennent de ma majorité, on est supérieur à 30%. Mais on était divisé. Mais il faut faire l'addition. Ce que je sais, c'est qu'en 2014, tout le monde avait expliqué, la presse en premier, que la ville avait basculé et j'ai gagné.
Sur le papier, il peut l'emporter, mais le second tour n'a jamais été aussi incertain pour Nicolas Lebourg, spécialiste de l'extrême droite et perpignanais.
Louis Alliot disait qu'il était un faux favori. Il est de plus en plus un vrai favori. Alliot a des réserves de voix et Jean-Marc Pujol des réserves d'abstention. Il faudrait vraiment que dans la dernière ligne droite, Jean-Marc Pujol arrive à ce que la gauche se mobilise pour lui, pour avoir une chance de l'emporter.
À Perpignan, pour la première fois, les affiches électorales de Louis Alliot sont intactes, pas l'ombre d'un tag ou d'une déchirure.
Marie Mollet, Emmanuel Macron peut-il se passer d'Édouard Philippe ? Question après notre dernier sondage BVA pour RTL. Le Premier ministre gagne 8 points. Il est à 54% de popularité contre 38% pour le chef de l'État.
Nous sommes donc à deux jours de la fête de la musique, mais cette année, il ne devrait pas y avoir grand monde dans les rues.
Franck Riester, le ministre de la Culture, l'a rappelé ce matin sur notre antenne. Les rassemblements à plus de 10 sont interdits. D'ailleurs, de nombreuses villes ont annulé les concerts par sécurité. Il n'y aura pas de thé dansant non plus. En tout cas pour l'instant, a également précisé Franck Riester, vous savez que ces rendez-vous sont très appréciés en zone rurale, comme ici dans le Pas-de-Calais, où les accordéonistes et les danseurs se sont un peu oubliés. Franck Hanson.
À la campagne du Ternois, Cédric Després ne peut toujours pas retrouver ses fans avec son accordéon. Il entretient donc le contact via Internet.
Tous les soirs, on fait ce qu'on appelle l'apéro musette en direct sur Facebook. Il y a encore des gens qui ont envie d'écouter de l'accordéon.
Ce musicien, comme d'autres professionnels, aspire à relancer ses thés dansants, toujours attendus chaque week-end. Tout un secteur d'activité, souvent en zone rurale, qui se sent délaissé.
Mon métier, c'est de faire danser des gens. On est complètement oublié. Là, ça fait 3 mois que ça dure et on ne voit pas du tout de perspective pour reprendre le travail. On comprend pas pourquoi on rouvre les écoles avec 35 élèves quelquefois. Et quand on voit les métros pleins et que nous, on nous fait pas confiance, on a l'impression qu'on peut pas mettre en place des choses, des protocoles pour permettre quand même de reprendre notre travail et de permettre aux gens de danser. Parce qu'en plus, ils en ont besoin.
Dans leur village de Guincourt, Régine et Alain commencent à trouver le temps long sans ces balles.
Dans le coin, les principales sorties, c'est vrai que c'est l'été dansant. On sait bien que les seniors sont peut-être un peu plus fragiles, mais on peut très bien prendre certaines précautions. En général, on danse en couple avec son conjoint.
Faut suivre madame, faut pas que ça se reporte jusqu'au mois d'octobre, non.
Et en plus, oui, on se dépense, c'est très bon pour la santé.
Mais Cédric a tout de même prévu de jouer pour la fête de la musique avec un public restreint.
C'est vrai qu'on a envie de retrouver tout ça, un reportage de Franck Hanson.
Et on a envie aussi de retrouver notre histoire du jour.
Mais où avait-il la tête, ces cambrioleurs ? Ça s'arrête un peu brusquement l'accordéon, j'avoue. Raphaël, est-ce que je vais pouvoir y aller ? Mais où avait-il la tête, ces cambrioleurs du Mans qui ont commis plusieurs vols depuis avril et qui semaient derrière eux des indices tels le petit poussé ? Début juin, ils s'en prennent à une pharmacie. La police n'a pas eu de mal à les retrouver grâce aux empreintes, surtout une carte d'identité. Photo, nom et adresse, il n'y avait plus qu'à. Les trois hommes âgés d'une vingtaine d'années sont déférés aujourd'hui au tribunal.
Écoutez, voilà un journal qui se termine bien, c'était celui de Jérôme Florin.
RTL Matin, Yves Calvi.
Et c'est l'heure de retrouver nos correspondants pour découvrir une destination de vacances en France. Bonjour Serge Puyot.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous nous emmenez ce matin en haute montagne, au cœur du massif des Écrins, à la découverte de la Meije, sommet emblématique des Alpes que l'on peut approcher grâce à un téléphérique.
Oui, au départ du village de Lagrave, dans les Hautes-Alpes, ce téléphérique permet d'accéder à 3211 mètres d'altitude, tout près de la Meije et jusqu'à un glacier. Bruno Gardan est guide de haute montagne depuis plus de 45 ans.
Oui, c'est le glacier de la Gironde. Ce qui est fabuleux, là, c'est qu'on touche le glacier, qu'on en voit les crevasses. Et c'est un des rares glaciers maintenant en France, on n'a plus tellement où on accède comme ça par remontée mécanique. C'est un des plus grands glaciers en France, en fait, hein, enfin, après la mer de glace, hein, qui fait 10 km² à peu près. Il fait une centaine de mètres d'épaisseur de glace. Il y a toute une partie qui est assez plate où on a fait un espèce de circuit de randonnée qui est accessible comme ça. Et puis après, au-delà, il ne faut pas y aller parce qu'il y a des crevasses. Et c'est des crevasses qui peuvent faire une trentaine de mètres quand même. Au niveau du paysage, c'est fabuleux. Là, on voit toutes les Alpes. On voit le Mont Blanc là d'ici, hein, qui est quand même une cinquantaine de kilomètres. Le jour où il fait bien clair, on arrive à voir jusqu'au Cervin. Et puis à gauche, on voit la Meije. La Meije, c'est la plus belle montagne du monde. Hein, je crois. Ah bah c'est clair, enfin il n'y a pas photo là-dessus. Hein. Ce sommet est mythique parce qu'il a clôturé en fait la conquête des Alpes. C'est le dernier sommet dans les Alpes qui a été conquis. À peu près 100 ans après le Mont Blanc quand même. C'est un sommet qui est difficile de tous les côtés, c'est une lame en fait. Donc ça demandait des techniques d'escalade qui à l'époque étaient quand même pas évidentes. Et je suis guide depuis 45 ans, les paysages on s'en lasse pas. Et puis ça change tous les jours hein, en fonction des conditions météo, de la neige, du vent, de la glace. Quand on est là, on tombe un peu amoureux quand même.
Alors il est passionnant notre Bruno. Serge, pour admirer ce magnifique sommet de la Meije qui culmine à 3984 mètres, on peut aussi se rendre sur un autre point de vue tout à fait unique.
Oui, il s'agit du plateau d'Amparis, que l'on surnomme également la Petite Mongolie, car il ressemble à une steppe. Benjamin Thibault est le responsable de la Maison des Alpages à Bess-en-Noisan.
On est là sur le plateau d'Amparis, donc effectivement, on peut voir la Meije reflétée dans l'eau du lac Noir qui est juste à côté de nous. On a vraiment l'impression qu'on peut toucher ce sommet mythique de l'Oisan. Et puis derrière nous, on peut voir à la fois les moutons, hein, il y a à peu près 1700 moutons sur ce plateau d'Amparis qui vont s'abreuver dans le Riftor, hein, donc qui est une zone marécageuse protégée, hein, parce que nous sommes sur une zone Natura 2000 et également dans le parc des Écrins. Et un petit peu plus loin, on peut voir aussi les chevaux randonnés, puisque c'est un lieu de randonnée pédestre, mais également équestre, sur ce plateau qui fait penser à la steppe. Hein, on parle de plateau steppique. On le découvre de plein de façons différentes, avec des randonnées à thème dans le cadre d'une rencontre avec les bergers que nous proposons à la Maison des Alpages, par le GR54 en partant du village de Besse ou bien en partant du village de Misoin. On peut le découvrir en VTT, de plus en plus en vélo électrique. Une piste pastorale permet d'accéder au plateau. Donc on a vraiment une possibilité de s'imprégner de ce lieu et même d'y passer la nuit puisque le bivouac est toléré.
Voilà Yves, vous n'avez plus qu'à préparer votre tente et votre sac de couchage.
Merci beaucoup Serge Puyot, vous êtes un merveilleux guide. Vous-même, merci pour toutes ces ambiances qu'on vient de partager avec vous, c'était formidable. On va retrouver Michel.